01 45 24 7000. Au téléphone sonne ce soir, camp scout ou colonie de vacances, nos enfants sont-ils en sécurité? Une émission dirigée par Annette Ardisson.
Bonsoir. Chaque année, plus d'1 500 000 enfants partent en centre de vacances, près de 240 000 en camp scout, tout mouvement confondu. Alors évidemment, quand survient un accident comme celui de Préau en Mayenne, ces jeunes filles tuées par des meules de paille, ou quand on ferme un camp ou un centre de vacances pour manquement au règlement ou pour des raisons d'hygiène, comme ça a été le cas lundi dans les Pyrénées-Orientales, les parents s'inquiètent. De leur côté, les organisateurs se plaignent d'une réglementation tatillonne. Où est le juste milieu? Comment s'assurer que son enfant est entre de bonnes mains? Pour répondre à vos questions ce soir, Gilles Garnier, chef de cabinet de Madame Buffet, car la ministre de la Jeunesse et des Sports est précisément avec 10 000 scouts près de Clermont-Ferrand, Lucien Valverde, secrétaire général des Scouts de France, et Jacques Henrard, secrétaire général de la Jeunesse au plein air. Avec une précision, le fonctionnement des camps scouts et des centres de vacances n'est pas tout à fait le même.
01 45 24 7000.
La première question nous vient de Toulouse. C'est Catherine qui a la parole. Posez votre question, Catherine.
Oui, bonsoir. En fait, ce n'était pas une question que j'avais à poser, mais un témoignage. Ma fille fait du scoutisme depuis 2 ans. Je peux dire que c'est son choix, c'est sa décision, ce n'était pas la nôtre. Et avant de lui permettre d'intégrer ce mouvement, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le service de la jeunesse et des sports de mon domicile et j'ai demandé des renseignements sur ce mouvement, pour savoir s'il était reconnu, etc., etc. Je tiens à dire aussi qu'avant chaque départ de camp, nous avons une réunion, l'encadrement nous convie à une réunion d'information pour nous expliquer comment va se dérouler le camp, les normes de sécurité, les projets pédagogiques, etc., etc. Et je peux vous dire que c'est assez impressionnant le travail que l'encadrement de ce mouvement fournit pour assurer la sécurité et le bon déroulement du camp, voilà.
Bref, vous êtes contente. Est-ce que c'est la bonne démarche, monsieur Garnier?
Ben, si tous les auditeurs de France Inter commencent comme ça, c'est vrai que c'est une bonne démarche. C'est vrai que l'idée de vérifier quand on reçoit un document, quand ses enfants ramènent à la maison tel ou tel dépliant sur un centre de vacances ou un camp scout, je crois que la bonne démarche, c'est vrai, c'est de vérifier s'il y a un agrément, c'est-à-dire si cette association est sérieuse. On a vu, pas seulement sur les questions de scoutisme, mais on l'a vu aussi sur les questions des séjours à l'étranger, où il y a parfois des associations qui vendent des produits qui, en fait, ne sont pas vraiment, j'allais dire, des choses sérieuses. Et je crois que c'est une très, très, très bonne démarche.
Lucien Valverde, vous représentez ici les scouts de France. Il y a scout et scout. Il ne suffit pas d'avoir le mot scout dans son intitulé pour être forcément garanti pur sucre.
Vous avez raison, Madame Ardisson. En fait, en France, le terme scout n'est pas protégé, contrairement à ce qui peut se passer dans de nombreux pays du monde, notamment aux États-Unis, en Australie, dans les pays anglo-saxons d'une façon générale. Donc le terme scout, à la limite, peut être employé par n'importe qui en France, ce qui peut créer la confusion pour les familles. Alors la démarche que l'auditeur a eue de téléphoner à la direction départementale de la jeunesse et des sports est une excellente démarche, puisque la direction départementale des jeunesses et des sports est capable d'indiquer quelles sont les associations agréées. En France, en fait, il existe une fédération des associations agréées qui comprend six associations. Les éclaireurs et éclaireuses de France, qui sont un mouvement laïque. Les éclaireurs et éclaireurs israélites de France, donc un mouvement israélite. Les éclaireurs et éclaireurs unionistes, un mouvement protestant. Les guides de France, qui est un mouvement féminin, catholique. Les scouts musulmans de France et enfin les scouts de France. Si vous adressez à une de ces associations, là, normalement, vous devez être satisfait.
Bien, nous prenons une deuxième question. C'est encore une dame, Hélène Delancourt. Alors non, c'est pas Hélène, c'est Corinne. Corinne, c'est à vous.
Oui, bonjour. Alors moi je regrette d'être désagréable. Mon fils et plusieurs autres camarades font partie des scouts de France de la région bordelaise. Nos enfants vont avoir 16 ans, ils avaient 15 ans lorsque ça s'est passé. Ils sont scouts depuis qu'ils ont 7-8 ans. Font partie d'un groupe important et faisaient jusqu'à ce jour des tas de choses avec le scoutisme. Nos enfants sont très suivis, nous allons aussi à chaque réunion, etc. Et cette année, nous avons, à la réunion des mercredis soirs, nos enfants rentraient de plus en plus tard alors qu'ils rentrent d'habitude. Allô ?
Oui, continuez, on vous écoute. Hein.
Alors qu'ils rentrent régulièrement à 20h, puisqu'ils sont en classe le lendemain, et là, plusieurs fois, 20h30, 21h45, 21h, pas d'enfants, jusqu'à ce qu'avec une maman, nous allions les chercher. Et nous avons été extrêmement choqués parce que les enfants fumaient des joints avec les animateurs. Et a priori, ce n'était pas la première fois, c'était extrêmement régulier.
Bon sang, on fume des joints chez les scouts alors?
Moi j'y étais, donc je vais vous confirmer. On a pensé que c'était une bêtise, etc. Enfin, la première fois, on s'est fâché, etc. Et puis nous avons quand même interrogé nos enfants, qui étaient plusieurs et qui n'y allaient pas tous ensemble les mêmes soirs. Et nous avons quand même fini par savoir que les enfants, c'était extrêmement régulier, extrêmement courant. Et que c'était pas eux, bien sûr, qui ont 15 ans, qui avaient même 14-15 ans à l'époque, qui demandaient, mais c'était bien les grands et les animateurs qui portaient à ces réunions ce qu'il fallait.
Corinne, on a compris, on vous remercie de votre témoignage. Je vais me tourner là tout de suite vers Lucien Valverde. C'est courant, c'était exceptionnel, on peut l'éviter, ce genre de choses?
Alors, tout d'abord, comme madame, je suis indigné de ces propos. Alors, je voudrais être certain qu'il s'agisse bien effectivement des scouts de France, parce que dans la région bordelaise, la situation est un peu compliquée. Mais admettons que ce soit le cas, vous avez raison d'être indigné, et quand ce, si vous êtes...
Elle est toujours là, elle nous écoute.
Alors bonsoir madame. Si vous êtes témoin de ce type d'acte, il faut nécessairement le signaler. Alors bien sûr auprès de la jeunesse et des sports, mais également auprès des instances des scouts de France. Et là nous agissons avec beaucoup de sévérité. Il n'est pas question chez nous que ce qui est interdit, la drogue en l'occurrence, puisse être pratiqué par les jeunes et plus encore par nos animateurs. Donc il y a zéro tolérance pour ce qui nous concerne en matière de toxicomanie.
Je vais donner la parole à Jacques Henrard, qui lui représente les centres de vacances. Je ne veux pas dire les colonies, mais enfin c'est pareil. Les colonies, puis pour les plus grands. Quand on rassemble des adolescents, des grands, est-ce qu'on peut éviter qu'il y ait des joints qui circulent absolument? Est-ce qu'on en est sûr à 100%?
Est-ce que vous êtes sûr que vos enfants ne fume pas de joint, madame Ardisson?
Ah non, je ne suis sûr de rien.
Mais le problème qui se pose, c'est un problème d'éducation, c'est un problème d'éducation des jeunes. Et justement, les centres de vacances, les centres de loisirs, mais les camps scouts aussi, les camps d'éclaireurs aussi, sont des lieux où on n'y va pas comme ça. Normalement, on ne doit pas y aller comme ça, ça doit être préparé, les familles doivent être associées, les jeunes peuvent être associés au projet. C'est toute une démarche d'éducation à leur autonomie, à la prise de responsabilité, à la prise de conscience des risques, aussi bien des problèmes de drogue, mais que des autres problèmes. Demain, la vitesse quand ils conduiront des automobiles, les problèmes d'alcool, etc., etc. Nous avons, nous, en tant qu'éducateurs, en tant qu'animateurs de ces centres et directeurs de ces centres de vacances de loisirs, à apporter toute notre contribution à la lutte contre ces fléaux. Et par la sanction vis-à-vis des enfants, mais par l'éducation vis-à-vis des enfants qu'on peut régler l'ensemble de ces problèmes.
Gilles Garnier, à la Jeunesse et Sport, qu'est-ce que vous faites quand un cas comme ça se présente?
Quand un cas comme ça se présente et qu'on est au courant, je pense que d'abord on entre immédiatement en dialogue avec les associations et on essaie de voir si les personnes encadrantes sont bien formées dans cet esprit d'éducation et non pas dans un esprit de partage. Bon, c'est bien de partager, mais pas forcément de faire tourner un joint. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est vrai que les centres de vacances comme les camps scouts ne sont pas, j'allais dire, dans des châteaux. Il n'y a plus de pont-levis. C'est-à-dire que l'enfant ou le jeune qui est à l'école, qui est dans son centre de loisirs, qui est dans un club sportif, peut être amené à avoir, j'allais dire, des comportements et toucher parfois la drogue ou toucher parfois l'alcool. Je crois qu'il faut surtout prendre la chose dans sa globalité. Il n'y a pas l'enfant à l'école qui serait parfait et l'enfant au cœur de sa cité qui serait dangereux. Je pense qu'il faut faire attention à tous les échelons. Donc il faut prendre l'éducation dans son sens global. C'est ce qu'on essaye de faire, mais ce n'est pas toujours facile.
Nous prenons maintenant l'appel d'Hélène Delancourt, que j'avais appelé un peu prématurément tout à l'heure. Hélène, vous êtes là?
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, j'ai 16 ans et je fais partie des mouvements des guides de France depuis maintenant 8 ans. Et je voulais apporter un témoignage, c'est-à-dire que ça fait 8 ans que je fais donc du scoutisme et pendant 8 ans, il ne s'est jamais absolument rien arrivé de vraiment grave. C'est-à-dire qu'on a eu des chevilles foulées, des petites coupures, des points de suture, mais jamais rien de vraiment très très grave. Et moi je dirais que je préfère plutôt de partir avec les scouts ou les guides parce que on apprend à prendre des responsabilités. On apprend à s'auto-sécuriser alors que j'ai l'impression que pendant des colonies de vacances ou des séjours entre jeunes, c'est plutôt les loisirs qui passent avant tout. On s'amuse aussi en camp scout, mais apprendre, savoir que c'est nous qui nous sécurisons nous-mêmes, c'est plus important, je trouve, que de s'amuser.
Oui, alors effectivement, on a eu pas mal de coups de téléphone ou de communication par Internet opposant Camp Scout à centre de vacances. Alors, quand je vous vois ensemble, messieurs, vous n'avez pas l'air vraiment d'être en concurrence.
Non, effectivement, nous ne sommes pas en concurrence. Et d'une certaine façon, on peut dire que les camps de scoutisme sont complémentaires de ce qui peut se faire à l'école, dans les familles, et bien entendu également dans les centres de vacances. Il n'y a pas d'opposition entre nous. Ce sont des approches différentes. Les camps de vacances répondent à un besoin de vacances des enfants. Les camps de scoutisme répondent d'abord à un besoin d'éducation. Les camps de vacances se déroulent en général sur des périodes courtes. Quoique dans les centres de loisirs, par exemple, ça peut être sur l'ensemble de l'année, mais généralement ce sont des périodes courtes à l'occasion des vacances. Les camps de scoutisme se déroulent toute l'année. Donc on n'a pas du tout le même type de rapport avec les enfants, puisqu'une grande complicité existe, une grande connaissance à la fois entre enfants et entre enfants et adultes. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait lieu d'opposer. Je pense qu'on peut mettre au contraire en avant la complémentarité. Et certains enfants participent à un camp de scoutisme et après à un camp en centre de vacances.
Jacques Henrard.
Oui, je crois qu'effectivement il y a complémentarité. Le problème dans nos centres de vacances, c'est pas simplement de s'amuser, c'est bien entendu de prendre des vacances, puisque c'est le moment des vacances ou des loisirs, mais c'est aussi de le faire autour d'un projet construit avec l'enfant, construit avec le jeune, qui lui permet à la fois de prendre en compte les problèmes de sécurité, les problèmes de responsabilité, les problèmes qui font avec une conduite vers l'autonomie dont je parlais tout à l'heure. Je crois que c'est très important. Notre rôle d'éducateur dans ces centres de vacances et les centres de loisirs, il est important. Sauf qu'il peut très bien s'exprimer à travers des loisirs, à travers du temps libre. Les loisirs, ça peut être aussi le temps de ne rien faire, le temps de discuter avec les copains. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les enquêtes, ce qui est demandé par les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes souhaitent majoritairement pouvoir échanger. Ensuite, ils souhaitent pouvoir écouter de la musique, etc. Donc, mais on peut le faire à travers une démarche éducative qu'on construit avec les parents, avec les jeunes. Et je crois que c'est pas opposé au fait d'être justement conduire vers une éducation.
01 45 24 7000. Une nouvelle question. Cette fois, il s'agit de Christian qui appelle de Cap-Breton.
Allô?
Oui, je vous écoute. Posez votre question.
Bonsoir.
Christian.
Je suis prof de gym et ancien scout. Et je suis très inquiet en ce qui concerne l'avenir du scoutisme. C'est un mouvement éminemment formateur. Et si la législation jeunesse et sport est appliquée strictement, je vois mal le scoutisme pouvoir continuer à vivre. Les scouts marins n'auront pas un brevet d'état voile parce que c'est un diplôme qui se monnaie relativement cher. Pour les activités nautiques, il n'y aura pas un MNS parce qu'un MNS se fait payer. Donc je suis très inquiet sur l'avenir du scoutisme et c'est, je répète, un mouvement éminemment formateur.
Alors Gilles Garnier, c'est une question pour vous. Je rappelle que vous représentez ici Madame Buffet qui est retenue à Clermont-Ferrand.
Oui, alors c'est vrai que on dit souvent trop de règles tuent la règle et oppriment un peu la liberté. Moi je crois qu'à partir du moment où on a reconnu une spécificité à l'ensemble des 10 organisations scouts qui sont agréées en France, je crois que c'est vrai que c'est une liberté importante qui vous est maintenant reconnue par l'État. Mais en même temps, quand il y a plus de liberté, c'est vrai qu'il faut plus de contrôle. Contrôle que vous mettez en place par vos propres organisations, mais que nous mettons aussi en place nous-mêmes. Alors c'est vrai que ce qui est posé, c'est d'un côté la liberté du scoutisme, une auto-organisation, une auto-validation de ses propres diplômes, et puis comment rentrer tout cela, eh bien, dans des normes qui sont, et qui, comme l'a dit Monsieur le Secrétaire Général tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui peuvent passer du scoutisme à d'autres activités. Il y a des jeunes scouts qui encadrent aussi des centres de vacances. Donc c'est vrai que par rapport à ces questions de pratiques physiques et sportives à l'intérieur du scoutisme, je crois qu'il y a des règles à respecter. Il y a des règles.
Là, la question de Christian était précise. Oui. Hein. Elle portait notamment sur les animateurs sportifs pour les sports de pointe. Là, il y a.
Pour l'instant,
si on veut faire du canyoning,
Si on veut faire du canyoning, si on veut faire de l'escalade ou si on veut faire de la voile, que l'on soit dans un camp scout ou que l'on soit dans un centre de vacances, on doit le faire avec des personnes qui ont des diplômes reconnus. Bon, je ne dis pas que du fait qu'on vient de voter la loi sur le sport, qui comporte justement un article, et dans cet article il y a justement les questions de validation des acquis, les questions de formation, on ne peut pas discuter avec les organisateurs de camp scout et les organisateurs de centres de vacances, parce que je pense que c'est pas tout à fait la même chose de pratiquer de la voile d'une manière compétitive et de pratiquer de la voile, j'allais dire, deux ou trois jours pendant un camp ou pendant un centre de vacances. Donc je pense qu'on peut trouver une gradation, y compris dans les qualifications. C'est ce que ouvre le nouveau texte de loi sur le sport. Ça va nécessiter, c'est vrai, un gros débat entre nous, mais je pense qu'on devrait y arriver entre les obligations de sécurité et tout de même, j'allais dire, la liberté de pratiquer.
Monsieur Enrard.
Oui, c'est vrai, nous, sur cette question, nous sommes très inquiets parce que c'est vrai que pour les sports à haut risque, nous avons bien sûr besoin d'avoir des professionnels qui encadrent, formés, etc., très formés pour faire ces sports. Mais la tendance en France, la tendance générale en France, c'est de demander sur tous les sports et sur toutes les initiations des diplômes de plus en plus importants. Si on continue comme ça, on risque effectivement de supprimer toute possibilité d'activité sportive. Alors, M. Garnier le disait il y a quelques minutes, la loi sur le sport qui vient d'être votée nous inquiète. Nous espérons que dans le débat qu'on va pouvoir avoir tous ensemble autour des décrets d'application, nous trouverons, comme nous l'avions trouvé en 94 sur la précédente loi, les moyens de permettre aux centres de vacances et de loisirs et aux camps de scouts et d'éclaireurs de pouvoir exister, continuer à pratiquer un certain nombre de sports, en tout cas à un certain niveau.
Nous allons maintenant à La Rochelle, une question de Jean-Marie.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Ma question va un petit peu dans le même sens que celle qui vient juste d'être posée. C'est-à-dire, c'est vrai, j'ai constaté, moi ça fait 20 ans que je suis directeur de centre de vacances, mais pas de scoutisme, mais centre de vacances et loisirs traditionnels. Et j'ai constaté donc que pour des activités physiques traditionnelles, parce que qu'on le veuille ou non, la voile, le canoë, l'escalade, tout cela, le ski, même le tir à l'arc, sont des activités traditionnelles, et vous demandez, du moins au niveau de jeunesse et sport, vous demandez des niveaux de qualification très élevés, brevets d'état, etc. Et ces niveaux de qualification donc entraînent automatiquement un risque financier énorme pour les centres de vacances et de loisirs, parce que bien sûr on demande du personnel très qualifié qui bien sûr doit être payé fortement. Et donc là ma question est la suivante, ne pensez-vous pas qu'en demandant de tels niveaux de qualification, vous mettez en danger et en péril les centres de vacances d'un point de vue financier, parce qu'on ne pourra pas suivre, mais aussi d'un point de vue du personnel, parce qu'on ne trouve plus de personnel de ce niveau. Moi, je vois, j'ai uniquement à chercher pour ce centre de vacances à La Rochelle des surveillants de baignade et des qualifications en voile. Je n'en ai pratiquement pas trouvé parce qu'ils vont ailleurs. On ne peut pas les payer assez.
C'est un problème que vous connaissez bien, Jacques Aurore ?
C'est un problème, oui, c'est complémentaire de ce que je venais de dire juste avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce problème, mais je crois que le vrai problème, c'est que demain, il y a le problème du coût, de l'accessibilité et tout ça, mais il y a aussi le problème de la pratique. Tout simplement la pratique, comme le vient de dire cet auditeur, le problème de devoir avoir pour toutes les activités sportives des brevets d'État ou des... Alors, on n'en est pas encore là, mais justement, il ne faut pas que nous y arrivions et il faut que nous trouvions les moyens dans la discussion de permettre aux centres de vacances la pratique de ces sports.
Gilles Garnier.
Oui. Faut toujours se méfier de quand on réagit à chaud, mais aussi quand on réagit un peu trop loin sur les événements. Quand on réagit à chaud, on a tendance à dire plus de sécurité tout de suite. Et de ne pas tenir compte, j'allais dire, c'est vrai, de la réalité des choses. Mais après, quand les choses retombent, on s'aperçoit que, à nouveau, on dit, bon, c'est pas très important. Moi, je crois que les deux doivent aller de pair. Et que une certaine chute de participation, parfois dans les centres de vacances, et vous en avez été vous-même, j'allais dire, le témoin, puisque vous avez fait une enquête là-dessus cette année, l'une des grandes revendications des parents, c'est la sécurité. Alors, je ne veux pas dire que systématiquement, parce que les gens auront un brevet d'État, qu'ils seront en sécurité totale. Je crois qu'on peut assister à des choses qui
le risque zéro n'existe pas.
Le risque zéro n'existe pas. Mais je crois qu'on peut trouver ensemble, non seulement... Ce n'est pas une histoire de sport à risque ou pas de sport à risque. C'est l'environnement spécifique dans lequel il se fait. Je suis un peu confus de le rappeler, mais quand on fait de la voile à moins de 2000 par un temps plat, ce n'est pas la même chose que si on fait de la voile au-delà de 2000 par un temps qui est de force 5 ou de force 6. Je suis désolé, quoi. Donc, au bout d'un moment, je crois qu'en face de chaque type d'environnement spécifique, il faut mettre des gens qui soient qualifié. Et il n'y aura pas systématiquement des brevets d'État, même s'il en faut à certains moments, parce qu'il y a des pratiques et dans des environnements spécifiques où il en faut, mais par contre je crois qu'il faut des gens formés. Et plus on aura de gens formés, je pense qu'on ne touchera pas au fondement même de nos centres ou de vos camps, mais je crois qu'on leur donnera au contraire un plus.
Oui, mais ça a un coût.
C'est vrai que c'est un coût. C'est un coût pour les familles, c'est un coût pour la collectivité. Dans une autre espèce d'intervention que l'on peut faire, moi je crois qu'il faut aussi intervenir comme le font ou le gouvernement ou la CAF, eh bien, sur le fait que l'on puisse aider les familles à partir et envoyer leurs enfants en vacances. Je crois que c'est des choses sur lesquelles il faut faire. On aide aussi les associations pour qu'elles fassent des formations moins chères. On a à peu près, on a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine. Et peut-être pas encore suffisamment, c'est vrai.
Un nouvel appel, Stéphane. Vous nous appelez Damien. Stéphane ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Oui, ma question, donc, toujours un peu sur le thème de la réglementation, je me demandais si la réglementation tuait pas l'imaginaire. Un exemple, un camp louveteau se prépare, thème Robin des Bois, interdiction formelle de faire des arcs et des flèches. Autre cas, un super endroit pour camper, impossibilité de camper car le lieu est ouvert, il faut s'enfermer dans un lieu fermé. Donc pas possibilité d'admirer la nature environnante, etc. Première question, donc trop de réglementation ne va pas tuer l'imaginaire. Deuxièmement, trop de réglementation ne va-t-il pas tuer trop l'initiative de jeunes qui prennent des responsabilités auprès de plus jeunes. Et enfin, trop de réglementation ne va-t-elle pas tuer le sens de l'accueil des gens qui accueillent justement des scouts dans le cadre des randonnées exploration découverte qui sont des temps que les jeunes attendent très fort lors des camps.
Mmh. Lucien Valverde, on est aussi tatillon que ça chez les scouts ?
Non, je ne pense pas, je vous rassure. Je
ça dépend peut-être des camps, ça dépend des animateurs.
Ça dépend à la fois des camps, ça dépend à la fois de l'âge des enfants, ça dépend effectivement des circonstances dans lesquelles se déroule le camp, de sa durée. On ne peut pas dire qu'une contrainte tue l'imagination. On peut même penser qu'à certains égards, la contrainte crée l'imagination. Il faut veiller effectivement à ne pas la tuer, cette imagination. Elle est importante et elle permet la réalisation de ces camps. Je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui que ce soit dans la réglementation telle qu'elle existe, et qui est fixée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, ou encore par les règles internes au mouvement des scouts de France, que les camps soient impossibles, bien au contraire. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu un gros travail de fait avec le ministère, et le décret du 23 avril 1998 permettent beaucoup de choses aux scouts de France. C'est précisément parce que nous avons cette confiance qui nous est faite, on se doit d'en être dignes. Donc à nous de veiller à la sécurité des enfants. Il n'y a pas d'opposition entre sécurité et sens de l'aventure. En tout cas, pas du point de vue des enfants. C'est peut-être aux animateurs là de faire preuve de toute la vigilance qui est nécessaire.
Gilles Garnier, je sais que la réglementation est en train d'évoluer. Marie-Georges Buffet travaille dessus. Alors, dans quel sens vous allez ? Plus de souplesse ou plus de vigilance ?
En tout cas, on avancera comme on l'a fait depuis 3 ans, ensemble avec les associations et avec les organisations scouts. Parce que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'exemple qui a été donné des scouts marins n'est pas un mauvais exemple. Il y a chez les scouts donc une qualification interne. Cette qualification interne, elle vaut pour l'instant qu'en interne, mais nous, par exemple, on serait assez favorable que, comme ça a déjà été fait depuis cette année, qu'il y ait des rapprochements entre la Fédération française de voile et les scouts pour qu'il y ait des diplômes, enfin, dirons, une reconnaissance de vos acquis. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut avancer. C'est-à-dire que quand vous enverrez votre enfant dans un grand scout ou dans une base de voile, vous aurez face à vous des gens qui auront la même formation. C'est un déjà un problème.
Mais ça veut dire que ce qui aurait été fait à titre bénévole dans un camp scout, comptera un peu comme des unités de valeur quand on veut construire un diplôme, c'est ça ?
Oui, ça c'est une des avancées de la loi sur le sport, j'allais dire, qui va servir à l'ensemble des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire, c'est la validation des acquis professionnels. C'est quelque chose sur lequel on a été critiqué, j'allais dire, par ailleurs, parce que certains, et je pense au monde de la montagne, étaient très opposés à la validation des acquis professionnels, étaient pour des brevets d'État, rien que des brevets d'État, que des brevets d'État. Nous, on pense, et je crois qu'Alain Buffet a répondu dans ce sens plusieurs fois à l'Assemblée nationale, en disant, selon le lieu où se pratique l'activité, selon le cadre dans lequel il se pratique, que ce soit un camp scout, un centre de vacances ou une base de loisirs, il faut une réglementation spécifique. Et je crois que c'est le décret qui le dira, et on va essayer d'avancer dans ce sens avec les associations.
01 45 24 7000. Nous prenons un appel d'Argenteuil, c'est Valérie qui nous appelle.
Bonsoir. Donc je suis organisateur de centre de vacances pour une collectivité territoriale. Je fais partir environ 1000 enfants par an. Je recrute 250 jeunes animateurs, directeurs. Et je me demandais quel était l'avenir du BAFA et du BASD compte tenu de l'évolution de la population.
Traduction.
BAFA, BASD, brevet d'animateur en fonction d'animateur, brevet d'aptitude en fonction d'animateur. Et BFD, l'équivalent pour les directeurs, donc qui sont des brevets décernés par des associations. On a un public animateur de plus en plus. Autrefois, c'était des profs, des instituts qui intervenaient, c'était des militants de l'éducation de l'enfance. Actuellement, on a des jeunes qui sont en recherche de devenir, d'avenir pour eux-mêmes. On leur confie des enfants de plus en plus déstabilisés familialement, je dirais. Et on a de plus en plus d'exigences pédagogiques avec eux. Et surtout, des exigences de sécurité affective et morale. Et nos jeunes animateurs ne sont pas du tout en mesure de répondre à cette sécurité. Et il me semble, en tant qu'organisateur, qu'ils ne sont absolument pas préparés à cela dans les stages BAFA et BFD. Et avec la réglementation européenne, je me demandais comment ça allait évoluer.
Gilles Garnier.
Écoutez, sincèrement, je ne sais pas à quelle réglementation européenne vous faites allusion. Pour l'instant, les BAFA, les BAFD se portent plutôt bien, j'allais dire même trop bien. On a beaucoup plus de candidats que de postes. Mais on y arrive parce que tout le monde ne termine pas son cursus, n'est-ce pas, monsieur Aura? Mais je pense qu'il faut revoir les contenus, c'est vrai. On a eu trop tendance, les uns et les autres, à la fois le ministère et parfois les associations, à avoir des contenus qui n'ont pas suffisamment évolué par rapport au public, par rapport justement aux activités qui ont changé, et les publics jeunes ont changé. Mais sincèrement, je crois que le BAFA et le BAFD restent, j'allais dire, une première expérience en général de vie en collectivité. Les jeunes qui passent leur BAFA ont 17 ans, 18 ans. Et puis après, c'est en général l'une des premières expériences aussi rémunérées où on a un petit bout de salaire pour faire ce travail. Mais je crois que c'est d'abord l'envie de s'occuper des enfants qui est la première des choses. Après, que l'on assiste aussi à une professionnalisation de l'animation, c'est vrai que c'est une tendance aussi lourde dans la société où il y a de plus en plus de jeunes qui ont choisi de faire de l'animation, que ce soit dans le cadre d'une collectivité locale, de centre de vacances ou centre de loisirs, d'en faire un travail à plein temps. Ce n'est pas la majorité, mais ça existe aussi. Et il y a parfois, comme l'a soulevé un rapport récent au Conseil économique et social, des questions sur ce sujet avec lesquelles les associations n'ont pas forcément la même approche, mais je crois que c'est intéressant d'avoir cet échange.
Monsieur Jacquard.
Oui, je crois que d'abord, je pense qu'avant, comme disait notre auditeur, ce n'étaient pas des enseignants qui étaient animateurs. Les enseignants, ils étaient directeurs de centres de vacances et de loisirs. Les animateurs, ils étaient jeunes comme les jeunes d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans les banlieues, dans un certain nombre de banlieues, d'endroits, la vie est beaucoup plus dure, la vie a changé. Et c'est vrai qu'il faut, à l'intérieur des BAFA, peut-être avoir une formation plus adaptée. C'est ce qui se fait d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui se font. Je pourrais définir ce qui se passe dans les modules des BAFA. Et c'est tout à fait important. Mais je ferai une différence sur les termes. On parle de professionnels et de bénévoles ou de volontaires. Moi, je parlerai plutôt de bénévoles volontaires d'un côté et d'autre part de salariés. Parce que des professionnels, on ne peut être professionnel et bénévole. C'est un moment important, c'est un engagement, donc il faut qu'on soit prudent sur les termes. Je crois qu'effectivement, il y a un problème par rapport, excusez Monsieur Garnier, sur le devenir des volontaires. Bon, c'est un débat, on en discute, on continuera à en discuter. C'est un problème très important à nos yeux. Mais je crois que, pour revenir à la question de l'auditrice, le problème, c'est bien de revoir pour un certain nombre d'endroits les problèmes liés aux évolutions de société, de violence et autres.
Pascal nous appelle de Paris. Pascal, c'est à vous.
Oui, bonsoir. Moi, je voulais poser une question à propos des sorties de patrouille ou des explorations. Je voulais savoir exactement la réglementation à propos de ces sorties. Je voulais savoir s'il y a un enfant mineur a le droit d'encadrer des enfants plus petits que lui, style 12-14 ans, pendant 48 heures, sans BAFA, justement, sans diplôme de secouriste, en partant comme ça pendant 48 heures, sans trousse de médicale, etc. Et quelle est la réglementation précise de ces sorties de patrouille ou de ces explorations?
Alors, Lucien Valverde.
Bonsoir, monsieur. Alors, effectivement, le décret de 98 précise également les conditions dans lesquelles l'exploration peut être réalisée.
Il faut rappeler ce que c'est.
Voilà,
hein.
L'exploration consiste pour de petits groupes de jeunes à partir pour de courtes périodes et sans encadrement, en dehors du lieu principal de camp, pour réaliser un projet éducatif. Alors, l'intérêt de ces explorations, c'est de permettre à ces jeunes de vivre une réelle expérience de l'aventure et d'autogestion. Chaque jeune, au sein de cette petite équipe, assume une responsabilité, en termes d'intendance, de communication, d'animation et autres.
Il faut rappeler que l'accident de Préau en Mayenne, c'était dans ce cadre-là.
Absolument, absolument. L'exploration est nécessite un certain nombre de règles de sécurité. Par exemple, tous les jeunes ont plus de 11 ans. Un jeune de moins de 11 ans ne peut pas participer à une exploration. Chaque équipe a de quoi manger, elle sait où elle va être hébergée. L'équipe d'animation, en amont, vérifie et approuve les conditions de préparation, d'organisation et de déroulement de cette activité. Elle approuve notamment l'itinéraire, les lieux de couchage et les repas prévus. Enfin, un adulte de l'équipe d'encadrement doit être joint ou pouvoir être joint à tout moment et intervenir à tout moment également. Donc voilà le cadre dans lequel ces explorations peuvent se dérouler. Je peux vous assurer, monsieur, que depuis que l'association des scouts de France existe, depuis 80 ans, c'est à ma connaissance le seul accident. Il est dramatique, j'en suis d'accord, mais c'est le seul accident qui soit intervenu. Et en l'occurrence, la responsabilité des scouts de France n'est pas engagée à ce jour.
Une nouvelle question de Marianne, Paris.
Oui, bonsoir. Alors, je vais poser une question toute simple. Peut-être que j'ajouterai juste une toute petite chose avant que les personnes me répondent. Quels sont les objectifs exacts des scouts par rapport aux autres colonies? Mon fils ne va pas au scout. Alors, c'est pour ça que je me permets d'intervenir juste. Mon fils ne va pas au scout. Bien qu'il ait été beaucoup encouragé par une directrice d'école privée, mais qui malheureusement ne montrait pas l'exemple quand même, vu que mon fils, entre autres dans la cantine, je ne parle pas au milieu scolaire, dans la cantine quand même subissait beaucoup de choses, à savoir manger le gras de la viande, enfin je donne des exemples, hein, remanger le vomi, etc. Et elle a fait vraiment beaucoup d'appui pour que mon fils parte au scout. Bon, il n'est pas parti au scout, ça fait 2 ans qu'il ne part pas au scout. Il va dans une colo qui s'appelle la Gospa. J'ai la chance de travailler dans un hôpital, donc j'ai la chance de... Et j'en suis ravie. Il revient, Madame... c'est pas un club de loisirs, c'est simplement un enfant qui prend en charge ses vêtements, qui prend les responsabilités des activités qu'on lui demande, et je récupère un enfant fantastiquement bien. Alors je voudrais savoir simplement quels sont les objectifs exacts des scouts par rapport aux autres colos. Voilà, c'est ma question exacte.
Bien. Lucien Valverde, vous êtes interpellé sévèrement.
Bonsoir madame. Alors, je ne sais pas si nous sommes interpellés sévèrement ou si c'est la directrice de l'école.
Oui, effectivement. Mais enfin, il y a un amalgame qui est fait.
Oui, là. Alors, surtout ne pas en commettre. Hein. Surtout ne pas en commettre. Il n'y a rien à voir entre ce que vous décrivez, madame, et les conditions dans lesquelles se déroule un camp scouting. Sinon, il n'y aurait pas autant d'enfants et de jeunes qui s'inscrivent chaque année et d'autres qui se réinscrivent. Alors, si on devait fixer un objectif au scoutisme, et si on se réfère à son fondateur, le scoutisme a pour objet de produire des citoyens actifs, heureux et utiles, ou créatifs. C'est-à-dire des hommes, des femmes, libres, qui sont capables de s'investir dans la cité, une fois devenus adultes, et déjà en étant jeunes, qui sont capables également de prendre des responsabilités. Voilà, si on devait fixer un objectif au scoutisme, celui qu'il serait. Alors, vous nous demandez quelles sont les différences. On a vu tout à l'heure qu'il existe un sens de différence, notamment le fait que le scoutisme est une activité qui se déroule sur l'ensemble de l'année. Elle fonde sa méthode sur une méthode par l'action, c'est-à-dire que les jeunes apprennent à faire par eux-mêmes. Ils s'engagent également, hein. On parle également de promesses, on parle de lois dans les scouts, c'est un idéal de vie sur lequel les jeunes s'engagent. C'est un idéal dont on discute, hein. C'est également la vie en équipe, on partage des décisions et des responsabilités, c'est la vie en pleine nature, pour ce qui est de la simplicité, de la créativité, c'est également une communauté, on s'engage dans cette communauté. Et puis c'est enfin l'acquisition de compétences. Et le scoutisme vise au développement de l'ensemble des compétences d'un enfant.
Mais Lucien Valverde, oui. ce que la question que posait cette auditrice, elle n'a pas osé dire le mot, mais c'est est-ce que vous favorisez l'éducation à la dure?
Non, pas à la dure, à la simplicité. À la simplicité. Mais on ne peut pas dire à la dure. D'ailleurs, vous savez, les enfants aujourd'hui ont la possibilité de comparer. Ils vont, on l'a dit tout à l'heure, à la fois dans des camps de scoutisme, dans des centres de vacances, et ils peuvent comparer. Et nous avons des enfants qui vont dans les deux. Ils apprécient le scoutisme parce qu'il offre une qualité de vie tout à fait satisfaisante.
Une dernière question, je pense. Édouard d'Alençon. Édouard, essayez d'être court.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc, Édouard, moi, je suis responsable depuis 7 ans aux éclaireurs et éclaireuses unionistes de France. Et donc, pour pouvoir encadrer des camps, on participe n'existe pas des stages BAFA, des stages BFD ou des licences de camp dont vous avez parlé. Et on nous parle à chaque fois lors de ces stages de responsabilité civile, de responsabilité pénale, du responsable qui s'engage là-dedans. Donc moi, depuis 7 ans que je fais des camps, on n'a jamais été inspecté par Jeunesse et Sport, la DSV, la DAS ou autre organisme officiel. Et je voulais savoir un petit peu quels étaient les moyens de Jeunesse et Sport en termes d'inspecteurs, de moyens, enfin de quantité de moyens humains pour inspecter ces camps, comment on choisissait les camps à inspecter et quelles étaient les sanctions prévues pour un responsable qui procéderait à un manquement, qui ferait fumer du shit à un de ses...
On ne va pas pouvoir répondre à toutes ces questions, mais concernant les moyens matériels de la Jeunesse et le Sport et le nombre d'inspecteurs...
Alors je vais dire, le cadre, petit ministère, donc 6000 fonctionnaires, sur le terrain à peu près 1000 personnes qui font les inspections, 40 000 centres par an, que ce soit France Scout ou centre de vacances, et puis il y a 11 000 contrôles. Donc peut-être pas votre centre, mais il y en a eu plein d'autres.
Merci messieurs. C'était le téléphone sonne avec Gilles Garnier, Jacques Henrard et Lucien Valverde, une émission dirigée par Annette Ardisson.
Envie d'aller en Angleterre avec votre voiture?
Ah, moi je ne fais pas peur de soi, les vêtements, les sorties, les hommes, rien à faire.